Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un épisode spécial de la série Feuilles de chou. La série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'un récit fantastique avant de connaître les rendez-vous et éléments précieux à ne pas manquer. Aujourd'hui, prenons le recul sur toutes les actualités du vivant, bonnes ou mauvaises, qui nous ont submergés cette année 2023. Il est difficile de faire le tri dans toutes les informations ayant déferlé cette année sur les ondes. Pour y voir plus clair, je vous propose un condensé des nouvelles du vivant. Et puisqu'il est bon de rechercher un certain équilibre, que diriez-vous d'écouter tour à tour ce qui nous a agité les oreilles dans cette série radiophonique? Accrochons-nous pour une compilation en vitesse rapide des feuilles de chou 2023. Commençons par le commencement, voulez-vous? Le 15 février, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a annoncé la prochaine interdiction de l'un des pesticides les plus utilisés en agriculture française, le S-métolachlore. L'interdiction a été confirmée au niveau européen en octobre. L'ANSES juge le risque de contamination des eaux trop élevé et du coup, l'interdiction ne portera que sur certains usages, mais elle porte quand même sur des usages. Deux autres herbicides à base de glyphosate ont été interdits dans cette continuité en mai en France. La raison, c'est l'absence de données transmises par Syngenta qui les commercialise sur les risques qu'ils font planer sur les pollinisateurs. Une bonne nouvelle pour, entre autres, les abeilles qui ont également profité de l'interdiction définitive des néonicotinoïdes en janvier. Continuons, voulez-vous ? La parution du rapport de synthèse du GIEC a démarré le printemps sur des faits scientifiques majeurs pour la compréhension de la crise du vivant et climatique que nous sommes en train de vivre. On parle de beaucoup de modélisation en réalité qui nous amène sur des scénarios un peu plus conséquents et pour le coup un peu alarmants. Dans le même temps, a été publiée une étude sur le bien-être procuré par le vivant, notamment via les sciences participatives, mais également la mise à jour d'un plan prévention à la sécheresse et la publication d'un plan d'action pour une gestion résiliente de l'eau. Les plans d'action cités ont l'avantage d'exister et de pouvoir être encore enrichis afin d'intégrer des points déterminants quasi inexistants dans tous ces programmes, comme la considération du sol et de tous les habitants qui y résident. Pour l'instant, les lignes directrices de ces documents sont dans la continuité de travaux amorcés pour le plan national Biodiversité, qui est publié dans sa version finale en juin. Si l'on devait retenir une date en mars qui glorifie le vivant, on pourrait retenir le 15 mars, date à laquelle l'Albanie célébrait le vivant en prenant une décision inédite en Europe. La Vioza, considérée comme le dernier grand fleuve sauvage d'Europe, si on compte pas la Russie, a été proclamée parc national. L'ensemble de son lit et même certains de ses affluents, soit près de 13 000 hectares, sont désormais protégés au titre de la catégorie 2 de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN. L'un des plus hauts degrés de protection possible. Une petite victoire, encore une. En France, des luttes citoyennes en faveur du vivant ont abouti. Pas moins de 10 projets de développement des stations de ski mauriennes ont été annulés en mai par le tribunal administratif de Grenoble. Désolé pour les amoureux de la neige, mais pour les collectifs écologistes locaux, c'était plutôt une victoire, qui dénonçait une fuite en avant dans le développement du ski, incompatible avec la raréfaction des ressources en eau et le changement climatique. En mai, la Ligue pour la protection des oiseaux obtenait du Conseil d'État l'interdiction de plusieurs pratiques de chasse traditionnelles, qui mettent en danger en fait, de nombreuses espèces qui sont prises de manière fortuite dans ces pièges. En juin, l'État français, un peu mauvais élève pour le coup, a été condamné pour carence fautive dans le préjudice écologique résultant de la contamination généralisée, diffuse, chronique et durable des eaux et des sols par les pesticides. Toujours en juin, le très encourageant projet de restauration de la biodiversité en Europe sera révisé et se soldera par un pacte vert beaucoup plus modeste en août. En parallèle, une consultation pour la modification de la liste des ESOD, les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, intègre des espèces malheureusement vitales pour l'équilibre des écosystèmes continentaux. On a donc du pour et du contre. Et contre toute attente, le Parlement européen a adopté en juin une directive sur le devoir de vigilance. Une avancée qui doit permettre de tenir les multinationales opérant au sein de l'Union européenne responsables du respect des droits humains et environnementaux sur l'ensemble de leur chaîne de valeur. Sur le territoire français, on peut retenir la toute nouvelle loi également pour aider les élus à lutter contre l'artificialisation des sols. Bien qu'encore peu opérationnelle, elle est support au développement d'une politique cohérente dans le développement des villes et des communes rurales. Après des mois cuisants, la rentrée des classes était sur un ton positif d'une accalmie. En septembre, le procès du siècle a permis la victoire des peuples autochtones d'Amazonie et conforté leur droit inaliénable à occuper leurs terres face aux appétits de l'agro-industrie. Le même mois, une étude sur les bienfaits de la végétation en ville sur les insectes paraissait, mettant en lumière des succès de végétalisation pour la présence et la diversité d'insectes en ville. Une petite victoire pour les initiatives correctement menées en milieu urbain. Toujours dans une dynamique de préservation des ressources en eau, le 3 octobre, le tribunal administratif de Poitiers a annulé deux arrêtés préfectoraux autorisant la création de 15 mégabassines en Nouvelle-Aquitaine. Le tribunal avait ainsi jugé que ces projets n'étaient pas associés à de réelles mesures d'économie d'eau et n'étaient pas adaptés aux effets du changement climatique. Attention, voici novembre. Novembre est un mois vraiment intense pour le vivant et a clôturé l'année avec des nouvelles contrastées, notamment la publication de l'inventaire national des forêts, qui synthétise toutes les données de l'année au regard des années précédentes. On retiendra ainsi les signaux d'alerte sur le dépérissement des forêts, où une nouvelle tendance des jeunes arbres à mourir précocement avant 5 ans d'âge tend à se généraliser. A contrario de ce bilan critique, un mouvement citoyen en faveur du vivant a été autorisé à perdurer. La dissolution des soulèvements de la terre a été définitivement annulée. Les juges ont estimé que la dissolution n'était pas une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée, étant donné qu'aucune provocation à la violence contre les personnes ne peut être imputée au soulèvement de la terre. Cette nouvelle a été accompagnée dans le même temps d'une nouvelle réglementation sur la pollution lumineuse, qui permet désormais aux agents de police de mettre des contraventions à hauteur de 1500 euros pour tous les organismes commerçants et enseignes ne respectant pas les préconisations d'éclairage nocturne. On en vient à notre très célèbre COP, la COP de Dubaï, vivement polémique, car elle n'a pas su faire avancer le débat actuel sur la consommation des ressources et le dérèglement climatique. Les décisions jugées insuffisantes ont ainsi été largement débattues et enrichies lors de COP alternatives à travers le monde et dans de nombreuses villes en France. Une nouvelle des plus remarquables de ce mois-ci, de mon point de vue, fut la décision de l'Union européenne. Celle-ci a réautorisé le glyphosate pour 10 ans, malgré l'accumulation d'études sur sa nocivité pour la santé et la biodiversité. Toujours en novembre, le Parlement européen a renoncé à voter l'objectif de réduction de moitié de l'utilisation des pesticides d'ici 2030. De même, un projet de loi pour que l'installation d'énergies renouvelables prévale sur la préservation d'espèces protégées suscite une vive inquiétude du côté des communautés scientifiques. Pour résumer cette année, certaines promesses demandent encore à être tenues, telles que les lignes aériennes intérieures qui ne sont toujours pas interdites, même quand il existe une courte alternative en train, tandis que d'autres projets, porteurs d'espoir pour le vivant, ont fait l'objet de bien des débats. Certains sont à la hauteur des enjeux de crise du vivant. On pense notamment aux mesures engagées par le président brésilien pour restaurer les écosystèmes amazoniens, tandis que d'autres projets restent insuffisants, voire contre-indiqués pour la durabilité de nos écosystèmes. Et pourtant, les données scientifiques sont là. Peut-être qu'elles demandent encore à être vulgarisée, mise à disposition, ou bien encore valorisée pour qu'enfin chaque citoyenne et citoyen soit en capacité de se positionner en conscience de ce qui l'entoure. À tout volontaire qui ne sait plus comment agir pour le vivant, qui se retrouve harassé par toutes ces nouvelles, il vous appartient de faire le relais de ces informations scientifiques. Je me permets ainsi de vous rappeler, chers amis de la chronique, que ces feuilles de chou mettent à jour les dernières trouvailles sur le vivant, mais qu'en aucun cas, ces données sont figées. De la même façon que le vivant évolue et se transforme chaque jour, nos connaissances se doivent de faire l'objet d'un nettoyage au gré des découvertes scientifiques. Sortons un instant de toutes ces réalités qui remuent les entrailles de nos cités humaines et du monde vivant. Concrètement, et si les chats dominaient le monde, aurions-nous les mêmes problématiques? Peut-être que ces attendrissants démons ont déjà la patte sur notre avenir, qui sait? Accordons-nous un instant pour esquisser un sourire en écoutant les aventures d'un chaton domestique à la découverte des clans guerriers et sauvages de la forêt. La guerre des clans, chapitre 2.
Salut, Ficelle.
Lança Rusty. Le nouveau venu ouvrit un grand ses yeux de couleur en d'ambre.
Ne me dis pas que tu vas dans la forêt.
Juste pour jeter un coup d'œil ? Se dit-il mal à l'aise.
Ne compte pas sur moi pour t'accompagner. C'est trop risqué.
Je vais juste jeter un coup d'œil. Ce ne sera pas long.
Je t'aurais prévenu.
Grogna son ami. Il tourna le dos à Rusty et sauta de la clôture dans son jardin. Le chaton roux s'assit dans l'herbe grasse, de l'autre côté de la barrière. Il se lécha nerveusement l'épaule. Le mouvement d'un animal attira soudain son attention. Immobile, Rusty balaya du regard les alentours. Il aperçut la pointe blanche d'une épaisse queue rousse qui dépassait d'un massif de fougères en face de lui. Il flaira une forte odeur inconnue. Celle d'un carnivore ? Pas de doute. Mais ni chien, ni chat. Il voulait voir de ça de plus près. Heurté de plein fouet, il fut projeté dans la bouquet d'orties. Il gigota en poussant des cris aigus. Pour se débarrasser de l'assaillant agrippa son dos. Son adversaire se cramponnait à lui. Ses griffes acérées lui labouraient l'échine. Rusty sentait des dents pointues lui rafler le dos. Il se démenait comme un beau diable pour se dégager. En vain. L'espace d'un instant, il crut que tout était perdu. Puis il se figea. Pris d'une inspiration subite, il se laissa tomber sur le dos. Il eut de la chance. La ruse sembla fonctionner. Il entendit son agresseur pousser un râle, le souffle coupé. Le chaton roux tituba sous le choc. Le souffle coupé. Il retrouva vite son équilibre cependant. Et fit gros dos. La bête s'assit alors sur son arrière-train en se léchant une patte avant.
Pas mal, dis donc.
Lança gaiement l'animal.
Tu te défends bien pour un chat domestique.
Un moment, le chaton resta sur ses gardes. Mais, se rappelant la force qu'il avait sentie dans les pattes de son adversaire, il se détendit. Et je t'affronterai encore s'il le faut, gronda-t-il.
Moi, c'est Nuage,
reprit le matou. Sans se soucier de ses menaces.
Je suis un des apprentis du clan du tonnerre, un futur guerrier.
Rusty garda le silence. Il ne comprenait rien à ce que ce félin au nom étrange lui racontait. Mais il sentait que le danger était passé. Pour cacher sa perplexité, il se lissa grands coups de langue, les poils ébouriffés de son poitrail.
Qu'est-ce qu'un chat domestique comme toi fabrique dans la forêt? Tu ne sais pas que c'est imprudent?
Si tu es le plus grand félin qui me guette, alors je crois que je m'en sortirai. Bluffa Rusty. Nuage gris le considérant un instant, les sourcils foncés.
Oh, ne crois pas ça. Si tu tombes sur un chasseur expérimenté, il peut t'infliger des blessures qui te feront passer l'envie de revenir.
Un chasseur? Un frisson de peur parcourut le dos de Rusty.
Les bipèdes n'ont qu'à bien se tenir avec des énergumènes comme ficelle. À votre avis, à quoi ressemblerait un univers sans humains? Et si l'Homo sapiens sapiens n'avait jamais vu le jour, ou qu'il n'était plus, quelle tête aurait notre planète? Une poignée d'artistes ont saisi le sujet à l'occasion de l'exposition « L'univers sans l'homme », s'étant établie au Musée de l'archéologie de Valence jusqu'à septembre 2023. Déployés. En 7 chapitres, les 70 œuvres qui composent l'exposition retracent des créations, datant du XVIIIe siècle à nos jours. Les artistes de tout temps ont manifesté l'envie de dépeupler l'univers, de reléguer l'homme à la marge. Au cours de l'exposition et des décennies, il devient au mieux un élément du décor, jusqu'à disparaître entièrement. Les dernières pièces de l'exposition portent des messages intenses de ce que pourrait être cet univers. Archéologie du futur, The Last Pictures de Trevor Paglen réunit en 100 photos marquantes l'héritage de l'humanité. Le meilleur et le pire. Surtout le pire. La grande vague de Kuzai, Captain America, les guerres, les armes nucléaires, les manipulations génétiques, l'élevage intensif, la Shoah. Ces images gravées sur une puce ont été envoyées à bord du satellite EchoStar 16 en orbite autour de la Terre jusqu'en 2027. Eh oui, on envoie des images là-haut, on sait pas trop pourquoi, mais on les envoie quand même. Elles posent la question de l'avenir de l'homme et de l'autodestruction programmée. Ces visions d'apocalypse imposent un choix aux visiteurs, celui du nihilisme ou de l'espoir, ou bien encore de la résignation apaisée. Le dernier chapitre de l'exposition « L'univers sans l'homme » se veut plus optimiste, il se veut inspirant. Les nymphéas de Monet sont disposés pour montrer un monde d'avant le regard humain, tandis que l'artiste qui peignait ses jolies vertes à l'époque perdait progressivement la vue. Dans cette lignée, plusieurs artistes actuels présentent des visions où les composantes du vivant, comme l'animal, le végétal, le minéral, deviennent le point d'ancrage de ses œuvres. Des cosmos vertigineux de Hans Hartung aux toiles abstraites d'Anna Eva Bergman, l'humain n'est plus. Mais les couleurs et le vivant demeurent, s'installant de tout leur long sur la place que nous occupions autrefois. Tu y as pêché où, baobab, acajou? Cette série revient la semaine prochaine, le vivant s'exprime en force, dans une nouvelle feuille de chou, avec une découverte du monde végétal.
Cyprès, pin des landes palissandres, mais l'aise tremble, tremble être noyée.